Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait ?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur ?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, on ne peut pas dire que les distributeurs ne l'avaient pas vu venir. Nous qui attendions d'avoir une interview de l'équipe du film fantastique La Nuée, chose qui devenait impossible quelques jours avant sa sortie compte tenu de l'indécision qui régnait sur la sortie du film, eh bien le reconfinement a simplifié une situation déjà rendue difficile par le couvre-feu. Donc nous y sommes. Alors on a déjà vu des films qui devaient sortir au mois de novembre, mais difficile de dire maintenant quand nous pourrons en parler. Mais cette situation ne va pas nous empêcher de faire notre émission dans laquelle on va poursuivre eh bien, les chroniques de films qui sortent soit en VOD et DVD, soit qui sont diffusés sur les plateformes de streaming que sont Amazon Prime et Netflix. Bonjour Manu.
Bonjour.
Alors toi Manu, tu fais un hybride entre eh bien, ce qui est disponible sur les grandes plateformes de streaming et puis une sortie DVD.
Oui, j'aurais pu choisir des films plus légers, des feel-good movies, mais je me suis quand même penché du côté de l'horreur, peut-être par masochisme. Donc j'ai pris deux films très différents pourtant. L'Éventreur de New York de Lucio Fulci, qui sort en Blu-ray, et puis Cadaver, qui passe donc sur Netflix.
Guillaume nous parlera de Borat 2 de Sacha Baron Cohen, deuxième épisode tant attendu donc, par les spectateurs, film qui n'est pas passé par la case cinéma. Et puis eh bien, on aura l'occasion de revenir sur la carrière d'un grand acteur qui nous a quittés il y a peu, c'est évidemment Sean Connery. Et on vous garantit donc un blind test sans un extrait de James Bond. Voilà, il n'y aura aucun James Bond à
oui,
trouver.
Oui, parce qu'on peut les confondre en plus. Hein,
en plus, oui. Mais nous allons commencer avec Rebecca, qui fait l'objet d'une adaptation sur Netflix. Alors le film, le premier film qu'on connaît, c'est celui de Alfred Hitchcock. C'est une adaptation d'un roman de Daphné du Maurier, mais il a été à nouveau adapté donc en 2020. Et Marine, a tenu à regarder les deux films pour en voir les différences. Elle nous en parle maintenant.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama.
Je suis allergique.
Je suppose qu'il y a un prix à payer pour ne pas être seul.
C'est étrange, non ? Certains semblent très heureux seuls et d'autres ont besoin d'avoir quelqu'un avec qui passer le temps. Et peu importe qui.
Où vous rangez-vous ?
Eh bien, mes parents sont morts, alors j'ai l'habitude d'être seule.
Monsieur De Winter est un riche veuf inconsolable depuis la mort de sa femme, Rebecca, dont la beauté et le charisme semblent avoir marqué tous ceux qui l'ont approché de près ou de loin. En voyage à Monaco, il rencontre une jeune femme, simple dame de compagnie, qui réussit à lui redonner le sourire malgré son deuil. De Winter finit par succomber au charme et à l'innocence de la jeune femme et la demande en mariage avant de l'installer dans sa somptueuse demeure, le célèbre château de Manderley. Une fois arrivée sur place, la jeune femme, devenue Madame de Winter, a bien du mal à trouver sa place et à s'affirmer en tant que maîtresse de maison, elle qui n'est qu'une simple roturière. Personne ne semble accepter sa présence au sein du château, surtout pas la gouvernante Mrs. Danvers, et le fantôme de Rebecca semble hanter perpétuellement les couloirs de Manderley, ainsi que l'esprit de Monsieur de Winter.
Madame Danvers, est-ce Monsieur de Winter qui veut garder cette chambre en l'état ?
On n'a pas besoin de le demander. Elle est toujours là. Vous sentez sa présence. Je me demande ce qu'elle pense de vous. Vous qui lui avez volé son époux et jusqu'à son nom.
Je suis sûre qu'elle ne demande pas mieux que son bonheur.
Son bonheur ? Non, il ne sera plus jamais heureux. Rebecca était l'amour de sa vie.
Rebecca, dernière production Netflix, est la seconde adaptation du très célèbre livre éponyme de Daphné du Maurier, adapté en premier lieu par Alfred Hitchcock et 80 ans après par Ben Whisley, réalisateur britannique à qui l'on doit le très réjouissant Sightseekers, un sommet du Mont Noir à l'anglaise qui avait marqué les esprits en 2012. Alors cette fois, exit la comédie. Rebecca est un film résolument premier degré, un vrai thriller qui verse à plusieurs reprises dans le fantastique, servi par un budget extrêmement conséquent et par des décors somptueux. Le réalisateur a expliqué qu'il n'avait pas souhaité réaliser un remake du Rebecca de Hitchcock, mais une nouvelle adaptation du roman de Daphné du Maurier. Difficile, bien sûr, néanmoins, de ne pas comparer les deux. Alors, pour rappel, le Rebecca de 1940 est la seule réalisation pour laquelle Hitchcock recevra l'Oscar du meilleur film. À noter d'ailleurs qu'il s'agira de son seul film américain, que l'Oscar du meilleur film allait officiellement à l'époque au producteur, en l'occurrence ici à David O. Selznick, alors que ce dernier eut des relations extrêmement houleuses avec Hitchcock pendant tout le tournage. Alors, première évidence, dans les deux versions, le livre de Daphné du Maurier est adapté de façon assez linéaire. Ben Weasley ne tente pas de réinventer la chronologie de l'histoire dans sa nouvelle version. Et par ailleurs, le Rebecca de Hitchcock durait plus de 2h10, une durée assez inhabituelle pour l'industrie hollywoodienne de cette époque. On remarquera que le rythme des dialogues, des plans et la musique omniprésente dans la version 1940 donnent néanmoins un rythme très soutenu au film, tandis que la version 2020 fait le choix de la lenteur, des plans contemplatifs et des scènes qui parfois s'étendent un peu, voire un peu trop.
Ma sœur Béatrice et son époux Gilles se sont invités eux-mêmes à déjeuner.
Aujourd'hui ?
Oui. Sans doute ma chère sœur est-elle impatiente de vous voir. C'est une femme sans artifice. Si vous lui déplaisez, il est probable qu'elle vous le dira en face. Mais soyez tranquille, je vais revenir vous protéger s'il le faut. Au revoir, chérie.
Au revoir, Maxime.
Au revoir.
Au revoir.
Difficile, en outre, pour Armie Hammer et Lily James, les acteurs de cette version 2020, de passer après John Fontaine et Laurence Olivier. Et c'est à se demander si leur jeu, quelque peu outré, ne tente pas justement de reprendre certains codes du jeu hollywoodien des années 40. Armie Hammer est assez oubliable dans le rôle de Maxime de Winter. Lily James, que l'on avait déjà vu dans Baby Driver, Yesterday ou encore Cendrillon, apporte quelques nuances intéressantes à un personnage pourtant tout en naïveté. Alors, sans spoiler, je vous rassure, la fin du film aux auditeurs qui ne l'auraient pas vu, le dénouement de la version 2020 s'affirme davantage, là où la version de 1940, censure de l'époque oblige, demeurait dans le sous-entendu concernant les mœurs soi-disant dissolues de Rebecca, ainsi qu'une éventuelle relation saphique. La version 2020 se fend même d'une fin quasi féministe qui promeut la liberté de la femme et blâme ceux qui souhaitent la posséder, et le personnage de la jeune madame de Winter évolue du simple statut d'ingénue à celui de transfuge social pour se révéler par la suite une femme bien plus ambiguë qu'on ne le croit au travers d'une scène finale qui diffère totalement de la version hitchcockienne. En même temps, connaissant la misogynie du maître du suspense, il n'est guère surprenant que cette nouvelle version propose, en 2020, un portrait de femme plus complexe et plus combatif. Mais la principale différence entre les deux versions réside surtout dans l'atmosphère. Bien que la version de 1940 soit teintée de mystère, elle est de temps à autre allégée par un certain humour et s'apparente davantage à un film policier plus qu'à une histoire de fantôme. La version 2020 se tourne davantage vers le cinéma fantastique, avec une ambiance gothique appuyée, des décors très travaillés, de nombreux passages oniriques et l'utilisation de la lumière bleue et rouge comme métaphore de la psyché de l'héroïne. Manderley est ici un personnage à part entière, davantage que dans la version de Hitchcock, mis en valeur par une très très belle photographie. Difficile donc bien sûr pour Ben Weasley de passer après Alfred Hitchcock, pour autant sa récente adaptation de Rebecca s'avère efficace, soignée, et elle ose prendre quelques libertés avec le livre et avec la première adaptation cinématographique qui ne sont pas pour déplaire.
Est-ce que Rebecca était vraiment belle ?
Oui. Oui, je pense que je peux dire que c'était la plus belle créature que j'ai jamais vue de toute ma vie.
Rebecca, film de Ben Whatley, est disponible sur Netflix. Autre film disponible sur la plateforme américaine, c'est un film norvégien, Cadaver, et c'est toi qui vas nous en parler, Manu.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Nouvelle production Netflix, venue des contrées nordiques, la Norvège pour être précis. Cadaver intrigue d'emblée par son postulat excitant. Alors, dans un monde post-apocalyptique, ravagé par une guerre nucléaire, ayant fait disparaître la plupart des ressources, un jeune couple et leur fille se voient miraculeusement proposer de participer à un dîner-spectacle, ou plutôt une représentation théâtrale, dans une immense demeure. Alors évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Alors ce premier long-métrage de Jaron Erdal étonne dès ses premières images, si on accepte la dimension invraisemblable du récit du départ, en fait, du point de départ, proche finalement d'un épisode de la quatrième dimension. Le talent du cinéaste éclate dans sa manière de prendre le spectateur par la main et de l'amener de l'autre côté du miroir, passant de l'atmosphère sombre d'un monde dévasté aux enluminures clinquantes d'un décor luxuriant et labyrinthique, peuplé de vastes pièces, de nombreuses peintures inquiétantes, de couloirs gigantesques, d'escaliers sans fin. Le raffinement d'une mise en scène inspirée valorise ce décor qui est peut-être même l'attraction principale, même le personnage principal, qui évoque un peu tour à tour des films comme Eyes Wide Shut, notamment l'endroit où il y a la partouze à la fin, Suspiria ou encore quelques productions de la Hammer. Les cadrages alambiqués alliés au lent mouvement de caméra insufflent une atmosphère pesante et envoûtante. De plus, le film est porté par la très solide interprétation de Geet White, qui incarne l'héroïne principale de ce jeu de rôle qui va, vous vous en doutez, tourner au massacre. Hélas, le film s'évente un peu dès qu'il abat toutes ses cartes, dévoile, alors je ne vais rien dire, à mi-parcours, les enjeux de la sinistre mascarade organisée par une sorte de dandy méphistophélès, souhaitant à la fois retrouver le plaisir des représentations théâtrales et assouvir à sa manière sa survie dans l'opulence et la débauche. En dépit de ses défauts d'écriture et un faux happy end un peu artificiel, Cadaver est un bon film d'horreur, agrémenté de quelques séquences bien saignantes qui renouvellent un genre passé de mode, le torture porn. Alors, sauf qu'ici, la violence est quand même souvent hors champ. Elle alimente davantage les fantasmes des spectateurs. Alors, une petite réussite, ce qui n'est d'ailleurs pas si courant sur Netflix en matière de films, on va dire, d'épouvante, fantastique ou d'horreur, où on trouve quand même beaucoup de films assez médiocres. C'est quand même une réalité. Oui. Je les regarde tous.
Eh bien, merci de nous avoir sorti du lot, finalement, un bon film. Il était attendu, ce film. C'est celui d'un journaliste kazakh qui visite l'Amérique. C'est évidemment Borat avec Sacha Baron Cohen. Et c'est Guillaume qui nous en parle.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Amarici, 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 Nibori. Ah, la 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 la. Oh, Amarici, 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 Nibori.
Déjà 14 années se sont écoulées depuis la sortie de Borat, premier du nom. Mais si, rappelez-vous, ce film complètement fou, réalisé par Larry Charles, et chaperonné par l'écriture et la personnalité azimutée de Sacha Baron Cohen, qui revisitait à sa manière les lettres persanes de Montesquieu. Borat, de son nom complet Borat, leçon culturelle sur l'Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan, mettait en scène un Kazakh du même nom, proclamé représentant de son pays, qui était envoyé par son gouvernement en Amérique pour essayer de tirer des leçons de la prétendue réussite et de la popularité de cette dernière. Alors à l'époque, le film avait fait scandale, avait provoqué une série de procès, et pour cause, cette comédie s'amusait à tirer à boulet rouge sur tout le monde et n'hésitait pas à se moquer de la façon la plus outrancière possible des travers, plus ou moins horribles, des uns et des autres. Tout le monde y passait, les riches, les pauvres, la géopolitique, la xénophobie, le féminisme, le tiers-monde, la prostitution, le capitalisme, les chrétiens, les conservateurs, les antisémites. Mais surtout, le film était monté comme un reportage qui mélangeait fiction, donc tout ce qui tournait autour du personnage de Borat, et réalité, c'est-à-dire un très grand pourcentage du reste, aux grandes dames des intervenants piégés par la caméra. Le but visé était de mettre en lumière les comportements effrayants que l'on pouvait et peut encore rencontrer au XXIe siècle, dans un monde qui n'est au final pas si évolué que ça et toujours aussi problématique. Alors, en 2020, est-ce que ce monde va mieux ? Petit avant-goût, pas vraiment.
Ils me dirent que pendant mon goulag, les USA avaient été ruinés par un homme démoniaque qui avait anéanti toutes les valeurs d'Amérique. Son nom, Barack Obama. Ça avait conduit d'autres Africains à devenir aussi leaders politiques. Mais un miracle se produit. Un être merveilleux qui s'appelle McDonald Trump est venu au pouvoir pour rendre Amérique great again. Il a aussi devenu pote perso de Caïd, top leader du monde, Poutine, Kim Jong-un, Bolsonaro et Kanye West.
Il n'y a pas vraiment de changement dans l'Amérique de 2020 à un détail près. C'est que désormais, les discours radicaux et les prises de position extrêmes s'assument beaucoup plus qu'à l'époque. C'est la première surprise du film qui va avoir une grosse répercussion sur son ensemble. En 2006, les idiots se cachaient encore pour pouvoir exprimer leurs idées et restaient majoritairement entre eux pour les cultiver. En 2020, ils sont partout, comme un aveu d'impuissance du premier film. On peut goûter ou non à la satire de Cohen, hein, mais il faut bien lui reconnaître son audace géniale d'être allé exposer sous une lumière crue les déviants de ce monde dans toute leur splendeur nauséabonde. En 2020, ces mêmes personnes n'ont plus peur d'être exposées, elles revendiquent fièrement leur droit à la médiocrité. On peut donc se poser la question suivante. Le cri d'alarme de Borat n'a-t-il pas marché? Ou est-ce que, à la manière du chef-d'œuvre visionnaire d'Idiocratie de Mike Judge, sorti, je précise, la même année, il avait peut-être trop bien compris ce qui allait se passer dans le système quelques années plus tard, plutôt que de simplement alerter sur les quelques dérives de quelques individus isolés? Ben, ce qui s'est passé entre-temps dans ces mêmes États-Unis, c'est que le président Camacho d'Idiocratie est bel et bien arrivé au pouvoir avec Donald Trump et qu'il allait forcément devoir mettre la barre bien plus haut pour pouvoir rivaliser avec la réalité. Cohen ne s'y était pas trompé hein, et avait amené sur grand écran d'autres personnages hauts en couleur, comme le roi de la mode Bruno dans l'excellent film du même nom ou encore le général Aladdin dans l'hilarant The Dictator. Alors, qu'a à dire Borat dans un monde où Kanye West a mené une campagne politique sous le signe de Dieu? Eh bien, malheureusement, plus grand-chose, et c'est assez dramatique. On commençait pourtant très bien, hein, avec un prologue quasi identique à l'original, où l'on retrouve Borat dans son Kazakhstan toujours aussi arriéré, et qui a dû payer le prix de son incompétence passée. Gracié, il est à nouveau mandaté pour retourner aux USA pour aller marier sa fille au vice-président. Le terme « mandaté » est important, car il n'échappera à personne que le film a été calibré pour sortir 2 semaines avant l'élection américaine, juste avant de savoir si Donald Trump allait rempiler pour 4 nouvelles années. Et c'est ainsi que Borat perd de sa fraîcheur universelle en comble pour s'engager sur les rails du tract politique uniquement tourné vers les républicains. En désignant ouvertement ce qui est censé être le mal et en normant son discours, l'ensemble perd grandement de l'anarchie jubilatoire qui faisait le génie du premier opus. Même la mise en scène entre dans le moule et abandonne aux trois quarts l'aspect documentaire pour un aspect fiction beaucoup plus voyant et donc moins audacieux. Et même s'il y a des soubresauts enthousiasmants, pour ce grand dingue de Cohen, ça manque quand même de désordre. Yeah.
Borat 2 avec Sacha Baron Cohen est donc disponible depuis fin octobre sur la plateforme Amazon Prime. On passe maintenant eh bien, au blind test de cette émission. Il concerne évidemment Sean Connery.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Sean Connery, qui s'est éteint le 31 octobre dernier, fait partie de ces acteurs qui, sans faire de vagues, sont parvenus à s'imposer dans la culture populaire. Une filmographie variée dont on va pouvoir appréhender les contours en évitant alors son rôle de James Bond, mais ça va quand même permettre d'écouter des grands films, parce que bon, je suppose que ça va être facile pour vous, chers auditeurs, et pour toi, Manu, parce que tu es le seul à jouer. Premier extrait.
Quelle langue ce frère parlait-il?
Toutes. Et aucune.
Et quel était ce mot qui revenait dans votre bouche à tous deux?
Penitentia agité.
Qu'est-ce que cela veut dire?
Ça veut dire que sans nul doute, le bossu a été autrefois un hérétique. Penitentia agité était le cri de ralliement des Dolciniens.
Les Dolciniens? Et qui étaient-ils, maître?
Ceux qui croyaient en la pauvreté du Christ.
Comme nous, franciscains.
Et ils ont aussi décrété que tout le monde devait être pauvre, alors ils ont massacré les riches.
Ça, évidemment, était trouvé.
Oui, là, c'était assez simple. C'est Le nom de la rose de Jean-Jacques Cano.
Film sorti en 86, adaptation du roman de l'écrivain Umberto Eco. Sean Connery y interprète Guillaume de Baskerville, un important moine franciscain qui enquête avec son jeune novice, interprété par Christian Slater, sur des morts mystérieuses au début de l'an 1300 au sein de l'église. Combien d'entrées en France, d'après toi?
Alors là, beaucoup, je pense, parce que ça a été un gros succès.
Oui.
Je dirais 2 millions.
Oh non, presque 5 millions.
5 millions.
Vraiment, hein. Vraiment, ils étaient à quelques milliers de faire le 5 millions. Alors, petite anecdote que je ressors du placard. Lorsque j'avais rencontré Jean-Jacques Hano, nous avions longuement parlé de la méthode de prise de son du réalisateur français qui refuse le son direct, obligeant tous les acteurs à refaire leur dialogue après le tournage. Et voilà ce que disait Jean-Jacques Hano de Sean Connery.
C'est une Sean Connery qui était paniqué à l'idée de refaire la totalité de son rôle. En une semaine, on avait bouclé l'affaire et il était absolument charmé parce qu'il avait amélioré son jeu.
Petit détour vers Jean-Jacques Hano et donc pour parler de l'interprétation de Sean Connery dans Le Nom de la Rose. Deuxième extrait.
Bienvenue à Chicago. Cette ville pue comme un bordel à marée basse. Bon, première question, à qui faites-vous confiance?
Eh bien,
à personne. Et surtout pas aux flics, parce que personne ne veut de vous ici.
Personne? Mais alors pourquoi est-ce que vous m'aidez?
Parce que j'ai juré de faire respecter la loi. Si vous me croyez sur parole, je continue la leçon. Maintenant, à qui pouvez-vous faire confiance?
Je ne peux faire confiance à personne.
C'est la triste
vérité. Mais si je ne peux faire confiance à personne, où va-t-on trouver des renforts?
Eh bien, si vous avez peur de tomber sur une pomme pourrie, ne la prenez pas dans le panier. Cueillez-la directement sur l'arbre.
Ça a été trouvé, évidemment.
Et c'est Les Incorruptibles de Brian De Palma, donc je ne pouvais que trouver.
Sorti en 87. Le film s'inspire librement de la traque du célèbre mafieux Al Capone par l'agent Elliot Ness et ses incorruptibles. Dans ce film, il y a Kevin Costner. Là, c'était un dialogue entre Sean Connery et Kevin Costner. Mais il y a aussi Andy Garcia et Robert De Niro. Ce film donnera l'occasion à Sean Connery d'avoir le seul Oscar de sa carrière pour celui du second rôle.
Et il meurt en plus dans une scène très tragique par ailleurs. Et c'est, parce qu'à mon avis, il ne meurt pas souvent dans les films, Sean Connery.
C'était contractuel en fait. Ne me faites jamais mourir. Troisième extrait de ce blind test consacré à Sean Connery. Il faut trouver le titre.
Les prédateurs arboricoles de la forêt équatoriale au Brésil.
Avant mon embarquement sur la galère Rotland, Madame Taylor, je caressais l'idée de faire de la zoologie. Je continue à en étudier certains aspects.
Lesquels?
L'instinct et le comportement.
Oh. Est-ce que la zoologie s'étend à vos semblables, Monsieur Rotland?
Eh bien, en partie, oui. Elle s'étend à tous les ancêtres animaux dont nous autres hommes avons sans doute tiré nos instincts.
Et nous autres dames aussi?
Eh bien, ce papier traite justement des instincts des prédateurs, de ceux qu'on pourrait appeler la classe criminelle du monde animal. L'on rencontre bien souvent des dames dans la classe des prédateurs.
Alors, Manu, tu sèches sur cet extrait?
Je sèche un peu, ouais. Parce que déjà, est-ce que je l'ai vu?
Je pense que tu l'as vu. Ouais. Alors, je pitch. Hein, c'est un éditeur qui embauche une jeune femme dont il sait qu'elle est kleptomane.
Si ah, c'est Haute Voltige?
Non,
c'est pas celui-là, mais alors, c'est plus ancien, en fait.
Alors, si je dis son nom... La fameuse Marnie.
Ah, pas de printemps pour Marnie. Ah ben, j'étais à 10 000 lieues quand il parle d'Amazonie. Là. Enfin, j'étais sur un film.
Oui, il parle surtout des prédateurs, en fait. Voilà. Voilà, film d'Alfred Hitchcock sorti en 64. Parce que bon, ce blind test est l'occasion de revenir sur les grands rôles, quand même, où on a vu Sean Connery. Quatrième extrait pour ce blind test.
Ça ira, Loganoff.
Oui, commandant. Je ne vous cacherai pas mon embarras, commandant. Si on a prévu un système de mise à feu à deux clés, c'est afin d'éviter qu'un jour, un homme ne puisse...
Ne puisse quoi?
Ne puisse armer les missiles. Peut-être devrais-je garder l'autre clé.
Ce sera tout, merci docteur.
Ça a été évidemment trouvé.
Et c'est à la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan.
Oui, sorti en 1990, le capitaine Marco Ramius, commandant de l'Octobre Rouge, veut passer à l'ouest en livrant le nouveau sous-marin construit par l'Union soviétique. Mais la tâche ne va pas s'avérer aussi simple que cela. Il y a Sean Connery, il y a Alec Baldwin et Scott Glenn dans ce film qui a fait 1 141 000 entrées en France. Dernier extrait de ce blind test consacré à Sean Connery. Alors là, on va aller très loin.
Tu me tiens dans le creux de ta main. Mais tu pourrais aussi bien être ailleurs. Je choisis pourtant d'être ici. Pourquoi? Pour t'affronter. Tu as déjà su déceler dans le diamant mes longueurs d'onde lumineuses. Tu vas tenter maintenant d'effacer les réfractions pour me détruire. Ton but est bien de me détruire, n'est-ce pas?
Oui.
Ça a été trouvé.
Et c'est Zardoz de John Boorman, film de 1973.
74, moi, j'ai, mais je ne sais pas si c'est... Bon, genre, allez, on va considérer que c'est 74 et que j'ai bien vérifié ma source. Avec Sean Connery et Charlotte Rampling. Alors, à noter que ça n'a pas été si évident, finalement, de sortir un dialogue, parce qu'il parle très peu dans ce film. On parle souvent à sa place, en fait. Voilà. Par contre, il est quasiment de tous les plans. Et quand je dis qu'on allait aller loin, c'est parce que nous sommes là plongés en 2293. La Terre a été totalement dévastée. La société est divisée en plusieurs castes. Il y a les brutes, les exterminateurs et les barbares qui vouent un culte sans limite au dieu Zardoz. Et tous œuvrent pour les éternels des humains ayant atteint l'immortalité grâce à la technologie. Mais Z, interprété par Sean Connery, va bouleverser l'équilibre social. Film considéré comme culte, hein, où il est en cuissarde et body échancré rouge.
Oui, certains le considèrent comme un chef-d'œuvre et d'autres comme un nanar. C'est un peu le cas, on va dire, de beaucoup de films cultes comme ça, des années 70.
Mmh. Et je pense que c'est quand même une expérience. La première fois que j'ai vu ça, je n'y croyais pas vraiment et je ne pensais pas que Sean Connery pouvait même avoir ce type de rôle. Enfin, je l'ai vu il y a très longtemps. Hein, mais voilà.
C'est un film étonnant, hein, totalement mystique. Et puis Boorman, ce n'est pas un imbécile, donc de dire que c'est un nanar, c'est quand même aller loin. Peut-être que le film a un tout petit peu vieilli parfois.
Oui, c'est rien de le dire. C'est rien de le dire parce qu'il est quand même assez stylisé, hein, ne serait-ce que dans ce que portent les personnages.
C'est un post-apo hippie, voilà.
C'est ça. Ainsi s'achève ce blind test consacré à Sean Connery. On aura peut-être l'occasion d'en faire de nouveau parce que sa filmographie est quand même bien étoffée. On termine cette émission avec une sortie DVD Blu-ray. C'est celle d'un film de Fulci, L'éventreur de New York, avec un tueur avec une voix de canard.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
Vous aimeriez vous assurer que Kitty est avec moi, n'est-ce pas? Vous voulez entendre sa voix?
Alors, s'inspirant de façon, on va dire, très lointaine du serial killer de Whitechapel, Jack l'Éventreur, L'Éventreur de New York s'inscrit dans un genre très codifié, hein, le thriller horrifique italien, communément appelé Giallo. Alors, une série de crimes particulièrement sauvages s'abat sur la ville de New York. Ces assassinats visent à chaque fois des jeunes femmes retrouvées éventrées. Alors, l'inspecteur Fred William, assisté d'un spécialiste en psychologie, mène l'enquête. Un inconnu mystérieux, donc, avec une voix de canard, contacte l'inspecteur et prétend être l'auteur des meurtres. Alors, longtemps mal aimé, méprisé même, hein, L'Éventreur de New York retrouve une seconde jeunesse grâce à la magnifique édition concoctée par Ecstasy of Film. Alors, outre un beau packaging avec un livret passionnant, signé à quatre mains par Lionel Grenier et Alain Petit, et notamment un passage justement sur tous les films inspirés de Jack l'Éventreur. Et puis aussi un fabuleux documentaire sur la 42e avenue à New York, avec des interviews notamment de Joe Dante et puis William Lustig. Alors, on reste frappé par la beauté aussi de la copie pour une production datant de 1982. L'Éventreur de New York reste l'un des films les plus personnels et donc excessifs de Lucio Fulci. Le cinéaste s'éloigne du giallo, genre qu'il piétine avec un cynisme rageur et inscrit son film dans la mouvance des thrillers urbains américains des années 80. Proche de l'esprit malsain d'un maniaque de William Lustig ou de l'Ange de la Vengeance de Abel Ferrara, L'Éventreur de New York transcende son intrigue conventionnelle en dressant un portrait sombre et décadent de la grosse pomme. Alors, de façon frappante, le cinéaste italien réussit à prendre le pouls de cette ville, hein, donc New York, en ébullition, à l'époque plongée en pleine paranoïa et délire sécuritaire. La force, un quasi-documentaire alors, du film par intermittence, hein, pas tout le temps, renforcé par la photo lugubre de Luigi Kurweiler, hein, et une caméra portée à l'épaule dès qu'il s'agit d'arpenter les lieux les plus glauques, étonne de la part d'un auteur peu enclin au réalisme. Les conditions de tournage précaires, alors séquences filmées sans autorisation, les délais très serrés, ont certainement joué favorablement dans l'impression de vérisme partiel que dégage le film. Alors partiel, car en bon italien transgressif, Lucio Fulci reste malgré tout un auteur de l'excès. Dans L'Éventreur de New York, Fulci pousse très loin son légendaire cynisme et sa conception peu reluisante de l'humanité. Alors on le sait, hein, l'homme est un loup pour l'homme. Fulci exprime une misanthropie assez peu confortable, pourtant pouvant provoquer une forme de nausée. Les victimes de L'Éventreur seront violentées, mutilées, triturées, sans que cela nous procure la moindre émotion ni compassion. La sensation étrange de ne rien éprouver a pu être perçue comme une lacune. En effet, par rapport à certains classiques du giallo marqués par la sensualité et la séduction, L'Éventreur de New York ne joue pas sur un système d'identification avec les victimes. Alors de plus, d'un point de vue graphique, Fulci s'éloigne des carcans esthétiques de la violence établie dans les gialli. Alors, il n'y a pas de lame de rasoir qui scintille, le sang rouge peinture qui éclabousse des murs blancs, il n'y en a pas non plus. Les scènes de meurtre sont brutales et sales, filmées dans des lieux repoussants, notamment sex shops, des hôtels miteux. On connaissait les goûts de Fulci pour la putréfaction, les corps en décomposition. Sa poésie macabre, là, se mue en une effrayante descente aux enfers, loin du grand guignol habituel. Alors, dans L'Éventreur de New York, la chair est triste, l'homme est un être pulsionnel, agressif, antipathique, mais sous cette apparente froideur se drape aussi une vision mélancolique et désenchantée d'un monde qui se plaît à souiller l'innocence. Car si la voix de canard du tueur prête à sourire, elle prend toute son ampleur symbolique dans la conclusion, à condition d'en accepter la grande naïveté hein, du twist, une résolution émouvante d'un récit virant au mélodrame sadique. Alors derrière sa noirceur appuyée au marqueur, hein, Lucio Fulci cache un cœur d'enfant, une générosité qu'on ne lui soupçonnait pas. Alors si on parvient un peu à oublier une musique envahissante, un peu jazz, disco, rock, pas toujours convaincante, de Francesco Masi, et une interprétation très inégale, bon, excepté l'anglais Jack Edley, très bon en flic bourru, L'Éventreur de New York, tout en remplissant allègrement le cahier des charges au niveau violence et érotisme, hein, tout, comme tout bon film d'exploitation, demeure avant tout un authentique film d'auteur. C'est aussi le champ du cygne d'une carrière qui ne cessera de décliner artistiquement par la suite, mais ce n'est pas le seul, puisqu'en partir de des débuts des années 80, la plupart des cinéastes italiens ne feront plus grand-chose d'intéressant.
Merci Manu pour cette sortie DVD Blu-ray.
Que je répète, sort chez Ecstasy of Film, hein, dans un combo DVD Blu-ray avec un livret à l'intérieur. C'est un peu pour les collectionneurs.
Hein. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
La semaine prochaine, Manu, tu as décidé de soutenir les libraires puisqu'on va parler d'un livre.
Et d'un livre sur le cinéma, évidemment, et plus particulièrement sur un acteur, Jim Carrey. Donc le livre s'appelle Jim Carrey, l'Amérique démasquée.
Et ce sera l'occasion de jouer un blind test où il faudra découvrir eh bien, des films de l'acteur américain. À la semaine prochaine.